it. My girl,
ladies,
what me want you do?
Tick 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 tock.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de cinéma, une émission consacrée aujourd'hui aux farniente, à la glande, au refus du travail et tout cela au cinéma bien sûr. Eh bien oui, janvier, le mois des suicides, de la grise mine et de la pluie, de la pluie, de la pluie, pas franchement le plus facile de se lever le matin pour aller bosser, plutôt des envies de se recoucher après le petit-déj, de lire un bouquin ou la composition des céréales sur la boîte en carton, écouter un disque, traîner, tout ça c'est normal parce que bon, en janvier c'est l'hibernation et normalement toute activité physique devrait être proscrite. Voilà pourquoi le travail justement en ce mois de janvier, on aurait comme des envies de ne pas y aller. Tout ça pourquoi ? Parce que fin 2017, nous avons découvert In Extremis, l'un des films de l'année pour nous, L'usine de rien, un film collectif qui nous vient du Portugal, porté par Pedro Pino. Ce sorte d'objet entre documentaire, fiction, questionne notre rapport au travail justement, et plus précisément au travail physique, la richesse ultime que les ouvriers offrent au capital. L'usine de rien met en scène des travailleurs à qui on retire leur travail. Et un travailleur sans travail, c'est un corps qui se réinvente, un esprit qui se libère. Et tout comme ses protagonistes, le film lui-même se réinvente et réinvente le cinéma dans une proposition qui mêle pamphlets politiques, comédie sentimentale, comédie musicale, etc. Un film marquant donc, dont parle avec beaucoup de talent le scénariste, essayiste et auteur François Bégodeau, qui a fait un petit sujet présenter ce film, et l'on va l'écouter tout de suite.
Les premiers plans, on voit des machines-outils s'activer dans le vide. Donc on voit à peu près dans quel genre de, d'univers on peut se trouver, et tout part de là, c'est-à-dire que le secteur d'activité de l'usine est très secondaire, puisque de toute façon ils sont amenés à ne plus travailler, dans la mesure où dès le début il y a une délocalisation, les machines sont prises. Donc la situation est posée avec une rapidité exceptionnelle. On a une espèce de condensé comme ça de la situation du capitalisme contemporain, de la façon dont il dilapide l'industrie européenne notamment. Ça c'est le constat de départ, c'est-à-dire que là où je pense que beaucoup de films auraient terminé là-dessus, lui il commence par là. Et il commence par là et tout de suite il rentre dans une problématique qui est pour moi beaucoup plus productive de sens, beaucoup plus productif de cinéma surtout, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce d'aporie. Parce que tout le film va se tenir... On peut dire que l'usine de rien est une espèce d'oxymore. Hein. Une usine, précisément, fabrique quelque chose. Là, c'est une fabrique qui fabrique rien. Et tout le film va se tenir comme ça, dans des sortes d'aporie ou de paradoxes, de contradictions, on aurait dit dans un langage marxiste, une contradiction absolument insoluble. À savoir que c'est vrai que la classe ouvrière, on lui demande de militer pour que soit maintenu l'outil qui l'aliène. Et ces ouvriers, leur désarroi vient de là. Alors après, ils se mettent en grève, mais ils se mettent précisément en grève alors que ce qui a été le calcul de leurs possédants, de leurs propriétaires, a été précisément de les priver de travail.
A grève vai até se dormir, mais quand ça va dormir,
vamos à votação.
O que é que nós queremos?
Estamos à espera de quê também?
Trabalho. Zé, o que é que nós queremos?
Trabalho.
Então, a greve é até obtivermos o que queremos.
A greve é a última ferramenta de trabalho.
Vamos. Queremos todos ou não?
A ocupação pode fazer.
La grève est notre meilleur outil de travail. Donc là, vraiment, on est dans un constat très proche de l'absurde. Il y a même un comique, je pense, de la situation, en quelque sorte. Le film est, au bout du compte, assez, à la fois mélancolique, âpre, violent, combatif, mais il est aussi drôle. Il y a une drôlerie de cette situation complètement folle. On va avoir des ouvriers qui glandent dans leur usine, qui essaient, encore une fois, de maintenir un outil qui a été quand même l'agent de leur aliénation. Une chose qui me paraît très forte dans le film, et où, là je trouve qu'il a retenu les meilleurs enseignements d'un certain cinéma politique des années 70, je pense à celui des Straub ou de Godard à sa période politique, c'est que précisément la théorie et la vie sont absolument intriquées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui pensent et de l'autre les gens qui vivent. Zé serait celui qui vit, l'ouvrier pris dans une situation. Et de l'autre, Daniel, le cinéaste, qui serait plutôt le pôle théorique. Et puis les quelques compagnons de table qu'il a à un moment, parce qu'il y a comme ça une injection très surprenante, au bout d'une heure de film, je crois, d'une discussion entre intellectuels, je dirais, intellectuels marxistes, pour aller vite.
Évidemment, moi aussi, je sympathise beaucoup avec des ouvriers qui chassent les patrons et qui partagent entre eux le profit de la production, c'est clair.
Sans hiérarchie.
Alors pour moi, si je peux critiquer l'idée d'autogestion, ce n'est pas parce que c'est trop radical, mais finalement, ce n'est pas assez radical, je dis. Une usine autogérée, isolée, reste quand même un acteur de marché.
Et il se trouve que Daniel, lui-même, qui fait partie de ces intellectuels-là en tant que cinéaste et qui a envie de filmer les ouvriers, va lui-même se retrouver dans la situation. C'est-à-dire que lui-même se retrouve aussi à glander dans l'usine, lui-même se retrouve à discuter avec les autres, je dirais, à égalité avec les autres. Donc la théorie et la pratique sont complètement imbriquées, de la même façon que, réciproquement, les ouvriers qui seraient censés être des gens qui vivent une situation mais ne la pensent pas, ne cessent de la penser. Ils n'arrêtent pas d'avoir des discussions entre eux. Dès le début, ça discute beaucoup. Ça discute pour, par exemple, accepter ou non les indemnités. Les propriétaires commencent par dilapider l'outil. Et en général, la ressource humaine arrive derrière pour organiser la misère, pour indemniser, etc. Donc ils discutent de ça, par exemple. Puis après, plus tard, ils discuteront de l'autogestion, un peu plus tard, beaucoup plus tard dans le film. Ils ne cessent de discuter. Donc on a des ouvriers pensants et on a des intellectuels qui fabriquent. Et de ce point de vue-là, les deux gestes sont tout à fait solidaires, même si, bien sûr, comme le film ne cesse de questionner beaucoup de choses et de se tenir dans les contradictions, le film n'est jamais fou de lui-même. Ça, c'est vraiment une chose que j'apprécie terriblement, c'est qu'il ne cesse de penser contre lui. Il y a aussi, bien sûr, des hiatus entre la position de l'intellectuel cinéaste et la position de l'ouvrier. Hiatus qui va culminer dans l'engueulade qu'ils ont à la fin du film.
Pensas que eu não percebi logo essa história da Argentina? Uma encomenda cai do céu?
E qual é o problema?
Por que é que tu não disseste lá dentro que eras tu que estavas por trás disto tudo?
Hubiera sido uma estupidez falar de minha relação com a Argentina. Porque a questão de autogestão é um trabalho de confiança, de toma de confiança.
C'est la capacité de filmer à manifester une désapprobation par rapport à la façon dont le cinéaste tout-puissant, incarné par ce Daniel, voudrait tout de suite, les prendre dans sa forme à lui, les introduire dans le récit que lui a imaginé, qui est à la fois un récit politique, parce qu'il voudrait qu'ils aillent à l'autogestion, mais aussi un récit formel, c'est-à-dire là, vous allez chanter, vous allez danser. Et c'est vrai que Zé lui fait remarquer que ça... Sa comédie musicale néo-réaliste, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est du vent, c'est du pipeau, ça ne veut rien dire, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce qui me frappe surtout dans le film, c'est à quel point pour lui, des gens qui sont en train de discuter, c'est pas moins réel que des gens qui sont en train de travailler, ou des gens qui seraient en train de s'activer à leur machine. Bon, ça, c'est une conception, je dirais, matérialiste de la théorie. Hein. La théorie, elle est dans le réel, elle fait elle-même partie du réel. Pour moi, le film est un essai, mais alors au sens le plus noble d'essai, c'est-à-dire qu'il tente en permanence des choses. Hein. Essai, c'est essayer. Il tente non seulement des hypothèses scénaristiques, on va essayer de faire ça, pourquoi pas l'autogestion ? Oui, mais bon, l'autogestion, ça pose quand même un problème, parce que ça reste quand même du travail, on est quand même encore dépendant du marché quand on est dans l'autogestion, etc. etc. Donc il y a déjà un rapport très hypothétique à la pensée politique elle-même, on va tenter des choses, et puis ces ouvriers sont en posture eux-mêmes expérimentale, ils sont en train d'éprouver quelque chose, d'essayer un truc. Mais le film lui-même n'arrête pas d'essayer des protocoles formels très divers. C'est vrai qu'il part sur, je dirais, un univers qu'on pourrait appeler de réalisme politique, un naturalisme politique. Et puis, de temps en temps, il tente autre chose. Donc, par exemple, effectivement, un moment musical. Je ne sais pas si on peut appeler ça comédie musicale, parce que moi, j'aime assez que la chorégraphie soit bien pourrie, que ce soit une chorégraphie ouvrière, quoi. Il n'y a rien de... Enfin, on part pas comme ça radicalement dans l'enchantement musical, quoi. On voit les corps encore assez pataux, amateurs. Mais il tente aussi des choses, des irruptions. Bon, il y a par exemple cette scène avec les autruches, quoi, qui est une espèce d'injection de fantastique, ou je sais pas trop quoi, onirique, pourquoi pas. Il y a plein de registres comme ça qui sont tentés. Il y a aussi le registre intime, hein, ce qui se passe entre Zé et sa compagne, sa concubine. Moi, je sens que le film n'a pas cessé d'avancer en réfléchissant, quoi. C'est-à-dire que oui, on pose un peu les bases de quelque chose, puis on les détruit pour tenter autre chose. Donc il tente des agencements formels de la même façon que ses ouvriers sont en train d'essayer de tenter des agencements politiques. Là-dessus, il est très ajusté à son sujet, quoi. Moi, j'aime quand même beaucoup le moment musical, qui est d'ailleurs en plusieurs temps. Il y a plusieurs registres qui se suivent. Je pense que ce qui se passe à ce moment-là, en termes de, sur le moment musical, c'est exactement l'usage que fait Brecht des chansons dans son théâtre. Les chansons chez Brecht, c'est toujours le moment du problème. C'est le moment où on est tellement arrivé à une sorte d'impasse théorique et une impasse dans les faits qu'il n'y a plus qu'à chanter, non pas dans une truc d'énergie du désespoir et toutes ces conneries, mais plutôt on va un peu danser sur nos contradictions, quoi. Et là, c'est vrai que la première fois qu'ils dansent tous ensemble, c'est parce qu'ils viennent de recevoir une commande d'Argentine. Laquelle commande pourrait leur permettre de pérenniser leur modèle autogestionnaire. C'est quand même des gens qui, aussi autogestionnaires soient-ils, et même s'ils sont en train d'inventer un nouveau système, des nouveaux rapports de production, ils sont quand même en train de se réjouir d'avoir une commande, ce qui est quand même typiquement une jubilation de commerçants. Ouais, c'est ce qui donne raison à une discussion qu'il y a en amont entre les intellectuels, où un intellectuel dit que l'autogestion c'est bien joli, mais enfin on est quand même encore tributaire du marché. Moi j'aime assez cette jubilation qu'ils ont à ce moment-là, mais c'est une jubilation ironique. Et donc il y a un statut ironique de la chanson à ce moment-là. Mais les deux sont maintenus, la joie et l'ironie, sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre.
Fizeste sempre tanto mal!
Mas nós chamamos-te.
Nous sommes tous confrontés en permanence à cette ambivalence dans notre rapport au monde. Alternativement, et d'une minute parfois à l'autre, et parfois même dans la même minute, nous trouvons que la vie est vraiment dégueulasse et qu'elle est magnifique. Le film est beaucoup plus dans cette ambivalence-là que dans un truc qui serait monolithiquement ou de façon monocorde dans le grand désespoir de tout est fini, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus d'issue. On voit bien que le film n'est vraiment pas là-dedans. Son énergie formelle témoigne quand même du fait qu'il y a une vitalité là-dedans. Et alors, ce qui est quand même génial et très rare, c'est que je pense que le film est de plus en plus fort à mesure qu'il avance. Ce qui est quand même assez rare, hein, je veux dire, y compris dans des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve la troisième heure absolument géniale. Parce que là, elle devient très, très profuse formellement. Là, on est vraiment dans le post-film politique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il tente quelque chose. Il y a cette errance dans la nuit, d'ailleurs, qui est très étrange. Il y a le concert punk, et puis après on se retrouve à une table où ils sont tous un peu alcoolisés, hein, évidemment. Et on entend beaucoup de mots dans cette scène du café. Il y a des mots qui ont été sans doute mixés, je pense, par la suite, ou en tout cas pris sur le vif, puis après triturés. Et il y a plein d'énoncés comme ça. C'est-à-dire que la parole se libère totalement. Donc le film, plutôt que de poser une difficulté, puis après peut aller d'aller vers une solution, comme ça, en se resserrant avec le principe d'entonnoir qu'on connaît bien dans tous les mauvais films, au contraire, il prolifère. Quoi. Il fait proliférer ses formes, ses mots.
Allegria. Tristessa. Amistad. Esperanza.
Nasce. Cresce. Porres. Trabalha. Morre. Faz outro.
Plus des mots à se balancer et une espèce de multiplicité un peu joyeuse. Oui, pour moi, c'est quand même la scène qui achève de me faire penser que c'est un des films de l'année, quoi.
Supe que esta fábrica están parados y están haciendo, no produciendo, pero están parados.
Tu namorada não veio hoje?
nesse carrinho.
Se não tens namorada.
Nós não arredamos pé daqui.
Você sabe que é uma crise internacional na construção civil.
Para de dizer que fazendo greve não te podem mandar embora.
E a ocupação?
A ocupação é uma forma ilegal.
Vendes a tua dignidade por 10 mil euros.
As filhas comem de dignidade.
Os meus filhos também comem de dignidade e comem de trabalho.
Mas você não falou nada.
Greve, ocupação.
As situações de sucesso de autogestão.
Nenhuma experiência em Portugal. Calma aí.
Mas fazemos nós aqui esta experiência, aqui, nós agora.
Esta fábrica é uma seringa.
Ficaste a fazer nada.
A fazer nada.
A fazer nada. A fazer nada.
Voilà, on a terminé cet entretien de François Bégaudeau. C'était par la bande-annonce du film L'usine de rien. Et cet entretien est proposé par le GNCR, qui est le groupement national des cinémas de recherche, et donc qui travaille pour faire découvrir ces films hors normes. Alors, film recherche, oui, mais quand même un film jubilatoire où il y a du plaisir à vivre. Et il y a une séance ultime de rattrapage de ce film, ça sera au Cratère jeudi 8 février à 18h. C'est la seule séance que j'ai trouvée dans le département. Alors je suppose que ce film sera de nouveau proposé peut-être à l'occasion de festival, mais en tout cas pour ceux qui peuvent, jeudi 8 février à 18h, une belle découverte, je vous le promets. Et puis, voilà l'évocation de ce film, L'usine de rien. D'autres films ensuite ont surgi de notre mémoire qu'on va parcourir tout de suite, avec pour commencer, en 2000, ce moyen-métrage de Alain Guiraudy, de 50 minutes, qui raconte comment, dans le cadre figé du travail d'usine, un travail répétitif, aliénant, un travail d'homme, un travail physique, quand on supprime la tâche à faire, eh bien, des perspectives tout à fait intéressantes s'ouvrent, comme se draguer ou jouer aux cartes, boire des bières. Ce film s'appelle « Ce vieux rêve qui bouge ». On écoute tout de suite sa bande-annonce.
Qu'est-ce que tu fais, Robert, avec ces tubes?
Ils vont les balancer, alors je les récupère.
Mais pourquoi faire?
Pour chez moi.
Qu'est-ce que tu veux faire avec ça chez toi?
Si on te le demande, tu verras que t'en sais rien.
Moi, je m'en fous, hein. Tu veux pas le dire, tu le dis pas. Hein. Toi, tu sais quels sont les hommes pour moi?
Sur l'affaire, je commence à m'y connaître. Tu perds ton temps.
Et d'abord, où t'as vu que sur chaque homme, il y a marqué possible ou pas possible? Dans ces histoires-là, tu renonces partout. Qu'est-ce qui te reste?
Quand viendra la saison nouvelle, quand auront disparu les froids, tous les deux nous irons, ma belle, pour cueillir le muguet au bois.
Je vais chercher un café, quelqu'un en vin. Bon, j'y vais.
Voilà, c'est donc la bande-annonce de Ce vieux rêve qui bouge, encore une fois un film assez rare au cinéma, que l'on a pu découvrir plutôt dans des festivals. Et puis à l'occasion de rétrospectives comme au mois d'octobre dernier, Groland qui faisait une carte blanche à Alain Guiraudy. On a juste entendu quelques notes de cet extrait des Nuits d'été de Berlioz, et donc on va faire une pause musicale en écoutant une version de Gautier, de Bruno Laplante. Donc Berlioz, on écoute tout de suite.
Quand viendra la saison nouvelle, quand auront disparu les froids, tous les deux nous irons, ma belle pour cueillir le muguet au bois. Sous nos pieds grêlant les perles que l'on voit au matin trembler. Nous irons écouter les merles, nous irons écouter les merles siffler. Le printemps est venu, ma belle, c'est le mois des amants bénis. Et l'oiseau satinant son aile disait vers le rebord du nid. Oh, viens donc sur ce banc de mousse pour parler de nos beaux amours. Dis-moi de ta voix si douce, et dis-moi de ta voix si douce, toujours. Loin, bien loin, égarant nos courses, faisons fuir le lapin caché. Et le dain au miroir des sources, admirant son grand bois penché. Puis chez nous, tout heureux, tout aise, en panier, enlaçant nos doigts. Revenons rapportant des fraises, revenons rapportant des fraises, des bois.
Écouter le merle siffler, aller ramasser des fraises dans les bois, ne rien faire, les doigts de pied en éventail. Le cinéma n'a pas beaucoup de héros aussi radicaux que Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux, un film de 1968, et oui, ça ne s'invente pas, un film de Yves Robert, qui revendique la liberté de ne rien faire et d'en jouir sans limite, puisque... Philippe Noiret, donc Alexandre le Bienheureux, décide de rester au lit. Et ce n'est pas sans conséquence, tout le village est en émoi. On écoute cet extrait.
Et vous là-bas ? Oui, oui, vous dans la salle, écoutez-moi deux minutes. Ah ben, laissez-moi le temps d'arriver. Voilà. Ouf. Pourquoi dites-vous toujours une vie de chien et jamais une vie d'homme ? Et pourtant... Vous appelez ça une vie ? Et pan, et pan, et pan. Plutôt qu'un petit apéro au soleil. Et vroom à droite, et vroom à gauche. Et là encore, il n'y a pas d'embouteillage. Plutôt qu'un bon billard et un petit champagne avec les copains. Dire que son grand-père s'est battu pour les droits de l'homme. C'est pas beau, ça ? Les sacs, les petits ronds, les sacs encore, les petits pois. Plutôt qu'une partie de foot avec les mots, mais avec moi dans les buts. Hey, vas-y, et vas-y, et un pour nous. Et le soir, à heure fixe. Eh oui, plutôt que quand on veut. Nous, et c'est-à-dire moi et mon patron, on a choisi. Le jour, la pêche. Ah, moi, j'adore la pêche. Je suis un chien de pêche. Et Alexandre, salope, viens vite me donner un petit coup de patte. Et puis le soir, la ronflette. La vraie, l'organisée. Mais dans le pays, ça jase.
Alexandre, lève-toi et marche.
Alexandre, il fait la pause.
Moi, je le comprends, Alexandre.
Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche.
Quand on a 120 hectares, on ne dort pas!
Ah, parce que tu trouves ça moral de se crever comme on fait? Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire?
Moi, je vais me coucher, mon
vieux. Vite, Alexandre, on la fera.
Alexandre?
Il dort.
Ça fait 2 mois.
2 mois?
Mais c'est pas si possible.
2 mois?
Tu vas pas rester là?
Si.
Elle travaille?
Je m'en fous! Je suis en vacances pour la vie!
L'oiseau dans. Pour moi les jours heureux.
pêche, le dodo. La pêche, le dodo, c'est ça une vraie vie de chien. Enfin, une vraie vie d'homme. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Alexandre le Bienheureux.
Personne s'en souvienne. Les crévaux le disent. Vider sa valise. Brûler les journaux. Les tapis, les photos. Sans rien vouloir apprendre. Pour que les enfants sachent. Quand on oublie tout, qu'on oublie les coups, qu'on déplie, qu'on secoue, que la folie s'attrape, qu'on déchire un âme, maladie tout à coup. À ton cou comme un collier de fleurs, de larmes et de couleurs. Un jour finir pêcheur, mollusque divin, peau de parchemin, mais c'est toujours. Portez-le la main, inaccessible, pareil au cœur de la cible.
mal de l'homme. Se libérer de tout, prendre dans la mer, corroder les vipères, tout ça dans la main, sans lumière et sans gaz, et sans barbe qu'on rase. Un jour finir pêcheur, avaler le compteur, regarder sans voir le calendrier qui tombe en poussière. Qu'elle est loin la terre, qu'elle est loin la terre.
Oui, parce qu'avant la, avant l'arrivée du yoga et sa mode, il y avait aussi la pêche. Il y a toujours la pêche. C'est donc Finir pêcheur de Gérard Manset que l'on vient d'entendre. Un Gérard Manset assez étonnant, en maître zen, qui nous explique donc qu'il faut contempler la nature. Et tout comme Alexandre. Alexandre le Bienheureux, eh bien, l'applique dans le film de Yves Robert. Et puis, s'il y a un film, un seul, que l'usine de rien convoque, et on l'a gardé pour la moitié de cette émission, ce film phare, c'est bien L'An 01. L'An 01, c'est aussi un film collectif qui est tiré d'une bande dessinée, créée par GB, qui était elle-même enrichie par les propositions des lecteurs de Charlie Mensuel à l'époque. Elle a ensuite donné cette BD un film, sorti donc en 1973 et réalisé par Jacques Doyon, Alain René et Jean Rouche, un mardi à 15h, la population, lassée de la toute-puissance du capitalisme et des contraintes d'un mode de vie entièrement dévolu au profit de la production, au profit et à la production, la population décide de déposer les armes de la guerre industrielle. Et le mot d'ordre est lancé, on arrête tout, on réfléchit, et les travailleurs de tous les corps de métier confondus abandonnent leurs occupations et pour débarquer dans la rue et commencer une nouvelle vie avec voilà, des scènes assez truculentes. Je vais vous faire écouter le début du film, les 4 premières minutes.
Il n'y a pas de musique ?
Non, enfin si, quelques chansons dans le film plus tard.
Alors, c'est une super production.
Au départ, on a dit L'An 01, un film à faire ensemble. Et effectivement, on l'a fait à beaucoup, mais pas tous à la fois, évidemment.
Un studio aurait été trop petit.
Il n'y a pas eu de studio, ça s'est tourné dans la rue, dans les champs, un peu partout. Ça, c'est ceux qui ont joué.
C'était lisible.
C'est pas important, le comédien les reconnaîtra au passage.
Et les autres?
Ils se reconnaîtront.
Oh tiens, c'est pas quoi, droit, je le connais. Il se fait appeler Paco parce qu'il est cherché par la police. Mais en fait, il s'appelle Manuel Durochou.
Ça commence.
Jean, monsieur.
Je vous connais de vue, mais j'ai pas eu l'occasion de vous parler.
Je crois que vous montez plusieurs en tête, vous. C'est
oui,
pour ça.
En général, je monte avant les premières. Je trouve qu'il y a moins de monde.
Moi, je monte toujours à peu près là. On a ses habitudes.
Eh oui. Ça fait 12 ans que je prends ce train-là.
Moi aussi, à peu près.
Hier, vous l'avez pas pris.
Ah, vous avez remarqué? C'est vrai, je l'ai raté. J'ai pris le suivant.
Vous n'avez pas vraiment raté. Vous n'êtes pas monté.
Oui, c'est ça, mais j'ai pris le suivant.
Mais vous n'êtes pas monté exprès.
Oui, c'est idiot. Tout d'un coup, j'ai eu envie de ne plus me rentrer dans le train.
De plus jamais monter dans le train?
Non, non, enfin, jamais. Non, c'est pas le mot, mais... Toujours le même train, vous comprenez, à la fin.
À deux, ce serait plus facile, vous trouvez pas?
Et donc?
Ne plus prendre de train.
Je sais pas. Mais... Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas peur. Au fond, on craint. Ils vont pas nous donner des gifles, quoi. On n'a rien à craindre.
Et eux? Tu crois que c'est par peur des gifles qui se démènent comme ça? T'as pas le droit. T'as pas le droit de se conduire comme ça.
Oui.
On devrait leur dire, vous êtes trop grand pour... Vous êtes trop grand pour prendre des gifles et des coups de pied au cul. On devrait leur dire ça.
Là, tu viens de dire un truc terrible, parce que... Quand on, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on s'est évadé. Hein.
Ouais.
Mais au fond, on a quelque chose à dire aux gens.
Mais comment on va le dire?
Je pense. On va trouver quelque chose à dire.
Super?
Oui, 50 francs.
Il va falloir économiser sur l'essence, attention.
Qu'est-ce qu'il raconte?
Je sais pas.
Il y a une grève de prévu, non?
Non, non, j'ai pas lu.
Moi, j'ai rien vu sur les journaux.
Non plus, j'ai rien entendu.
Dis donc, je trouve bien que j'ai plus de monnaie. Tu veux pas regarder si tu as 50 francs?
Oui, oui, je regarde.
Non, j'ai plus rien. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faudra économiser l'essence?
Les gars des raffineries ont décidé d'apprendre la musique. Mais non, c'est officiel. Bientôt, c'est l'an 01.
Et vous y croyez, vous, à ces histoires?
Un petit peu que j'y crois. Toute la semaine à remplir des réservoirs, j'y crois. Et s'il y a quelqu'un qui le fera, ce sera moi.
Et qu'est-ce que vous ferez pour nourrir votre famille? Vous irez chasser le bison?
On enverra tous les gars qui fabriquent ces cochonneries aller gratter la terre avec leurs pieds, comme ça on manquera pas de blé. Ah, c'est le cadeau pour un plein. C'est les fleurs de France en plastique.
Dites donc, pendant ce temps-là, vous allez regarder pousser le blé?
Ce serait pas déplaisant.
Mais vous allez vous emmerder à 100 sous l'heure, mon vieux. On est sur terre pour travailler.
C'est pas évident, mais pas évident du tout. De toute façon, on aura le temps d'y réfléchir et de chercher à ce qu'on fait sur terre, si on travaille ou quoi. Et puis, s'il faut travailler, bon, on pourra se flinguer, mais alors on saura pourquoi.
Et vous faites ce numéro à tous vos clients?
Oui, mais j'en rajoute à chaque fois. Je me rôde.
Ah, tenez.
Merci.
Voilà, regardez pousser le blé ou pêcher, ou même zoner dans une galerie, dans le parking d'une galerie commerciale. C'est ce que propose le Grand Soir, un film de 2012 de Benoît Delépine et Gustave Carven, dans lequel Benoît Poulvorde déambule en dernier punk à chien et dernier des Mohicans. Il s'appelle Note, il est contre tout, il vit dans la rue, il subsiste de charité quand il insulte pas les passants, et de petit larcin. Et son frère, au contraire, Jean-Pierre, interprété par Dupontel, est un bon petit soldat, prosélyte de la société marchande et de la vie à crédit, jusqu'au jour où il se fait licencier et Benoît Poulvorde essaie de le recaser dans un magasin. On écoute l'entretien.
C'est pas possible, monsieur.
Mais comment c'est pas possible? Mon frère, il travaille des 7 heures par jour. Vous voyez, c'est ça, il se sacrifie et il pourrait pas rencontrer le directeur de ce magasin à con.
Non, monsieur, c'est la crise.
C'est quoi?
C'est la crise, monsieur.
La crise? Arrêtez. La crise. Foutez-moi, moi je vois les gens avec des caddies, là, avec ces plein de produits de merde, hors de prix. C'est pas la crise, hein. Faut pas dire n'importe quoi. Je peux rencontrer.
Calmez-vous. Je reviens.
C'est ça. Allez, cherche. Ah, voilà. Non, c'est bon, ça va. Faut pas s'étonner après que c'est la fuite des cerveaux, hein, parce que lui, il a bac moins. Tu fais chier, tu as ton pingouin. Va le chercher, ton service d'ordre. De toute façon, on n'aurait jamais travaillé pour des Chinois, je vous le dis. Hein. Vive le Dalai Lama. Mais putain, qu'est-ce que tu fous, t'es con, quoi. Viens là. Arrête.
Le grand soir, entre la critique sociale, le rire féroce et grinçant et la révolte poétique, un conte sur les dégâts du capitalisme encore et toujours, et un film dans lequel contribue ce groupe punk, s'il en est, les vents passent, avec ce morceau « Comme un punk en hiver ».
Et les gars,
court mais efficace, les vents passent comme un punk en hiver. Et voilà, on approche de la fin de cette émission. Et bien entendu, pour finir ce sujet, comment ne pas évoquer les films de Pierre Karle, si je vous donne déjà les titres de certains d'entre eux. Volem, rien foutre, Alpéis, trois petits films contre le grand capital, Attention, danger, travail, dont on écoutera un extrait pour terminer. Mais auparavant, rendons à César ce qui appartient à Luc Moulet, ce réalisateur subversif dont les courts-métrages eux aussi passent surtout en festival et qui, en 1987, nous offrait la comédie du travail, une comédie donc, mais sur le chômage, comme son nom le cache. La comédie du travail propose un portrait de sans-emploi et de ceux qui cherchent à leur en donner, une sarabande d'attitudes et de gestes banals, une méditation démente et documentée sur les accros du boulot, un regard plein d'humour sur le chômage et le travail en France, tels qu'ils sont vécus par trois personnages très opposés.
Attends-moi ! Je comprends pas. Toi qui veux jamais travailler, mais ici c'est plus dur que tous les boulots du monde. Je serais tellement bien en bas. Il y a des arbres, il y a des maisons, il y a des gens. Quand je pense au petit café que je me ferais, tiens, dans la machine au fond du couloir. À mon bureau. Non mais je suis folle, mais qu'est-ce que je fais ici? Puis c'est dangereux en plus.
Au-dessus, c'est très très facile.
Non mais tu te rends compte? Tout ce travail là, sans être payé.
Si je passe mon temps à me balader, c'est parce que j'aime ça. Ça rapporte pas d'argent, mais je pointe. C'est pas un vrai travail, mais ça paie. Qu'est-ce que je peux demander de plus?
Voilà un extrait donc de la comédie du travail de Luc Moulet. Et puis on va écouter tout de suite au micro de Pierre Karle une femme qui décide eh bien, de ne plus travailler et qui a l'air de ne pas s'en porter plus mal, ma foi.
Avant de connaître le chômage, tu as surtout et longtemps connu le monde du travail.
Oui, oui. Bah alors j'ai travaillé donc dans une entreprise, c'était l'aéronautique, et j'étais vivreuse sur binoculaire. Et donc, bon, ça sera... Ah oui, alors, c'est des pièces pour les avions. C'est ça, c'est un peu, tu vois, comme si tu étais chez le dentiste, bon, à part que tu le fais sur une pièce, quoi, et t'enlèves toutes les bavures qui sont dans des trous. Donc, je suis restée à peu près 12 ans. Et bon, j'ai été virée pour question économique, quoi. J'étais un peu poussée, quoi, à partir, parce que, bon, je faisais beaucoup de rêves et tout ça. Et après, bon, je me suis retrouvée sans travail. Alors là, bien sûr, tu te dis, punaise, sans boulot et tout, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, tu commences à... Bon, tu sais, ça te fait peur, quoi, parce que t'as toujours bossé et tout. Et bon, j'ai fait des recherches de travail et tout, puis il n'y a rien qui a correspondu. Puis, en fin de compte, plus je suis restée sans rien faire, quoi, enfin, sans travail, alors là, ça m'a vraiment plu, quoi, parce que je peux faire plein de choses. Je me suis aperçue que, bon, j'ai découvert pour aller dans les musées, je lis, quand tu vas dans les magasins, t'as pas besoin de faire tes courses, tu sais, en même temps que tout le monde, et... Mais je suis heureuse qu'on m'ait virée, quoi. Au départ, ça m'a fait de la peine, mais là, je suis vraiment bien, quoi. Je suis... Tu vois, puis alors, en plus, mais attends, les gens, ils savent pas ce que c'est de faire la sieste l'après-midi, tu vois. T'es là, l'après-midi, tu dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, il pleut. Oh là, je vais être tranquille, je vais lire un petit bouquin. Alors moi, il y a plein d'auteurs que je connaissais pas, tu vois. Maintenant, j'ai découvert plein d'auteurs, toi, russes, Tchekhov et tout ça. Mais avant, je connaissais pas ça, parce que t'as pas le temps quand tu bosses. En fin de compte, t'as le temps de rien faire. T'as le temps d'aller bosser, tu vois. Et puis, une fois que t'as bossé, faut que t'ailles faire tes courses, faut que tu fasses ceci, tes week-ends. T'as pas le temps d'en profiter, rien. Et c'est quoi de bosser, en fin de compte? Ben, c'est de faire chier, quoi. En fin de compte, les entreprises, de toute façon, les patrons, ils en ont rien à péter, quoi. Toi, une fois qu'ils ont envie de te virer, eh ben, ils te virent. Et toi, qu'est-ce que tu fais, de toute façon? Ben, t'es bien obligé de... Tu vois, de réfléchir, de te dire, bon, quand t'as 50 balais, est-ce que je vais bosser? Est-ce que je reste? Est-ce que j'essaye de me trouver quelque chose? Puis alors, en plus, bon, attends, qu'est-ce qu'on va me proposer? Moi, c'est pareil, pendant un moment, tu vois, je voulais faire des ménages, 50 balles de l'heure. Non, mais moi, je préfère pas, j'ai pas envie d'entretenir les bourgeois. Hein, je pense qu'ils ont, de toute façon, ils s'entretiennent assez sur le dos, comme ça, des gens. Tu vois, donc, au moins, bon, on va me dire peut-être que je profite, tu vois, de l'argent. Mais moi, j'ai bossé, de toute façon. Donc, cet argent qu'on me verse dans ces 2600 francs par mois, je vais te dire, faut qu'ils aient un, ils vont pas pleurer pour 2500 francs qu'ils me donnent par mois. Moi, je préfère gagner ça que de gagner 5000 francs. Et puis que les bourgeois, tu vois, s'engraissent sur mon dos. Et puis, au bout de 2 ans, eh ben, l'usine, on va la fermer, allez, hop. Et puis, toi, tu fais quoi? C'est pareil, tout est à refaire après. Alors, moi, maintenant, tu vois, ça fait à peu près 12 ans que je travaille plus. Donc, moi, je me plais. Tu vois, au moins, maintenant, j'ai le sourire, je suis bien, tu vois, je suis tranquille. Il n'y a personne pour me dire, ouais, c'est aujourd'hui, t'arrives en retard et tout. Non, là, vraiment, j'en veux plus, quoi.
Est-ce qu'il y a le...
C'était donc un extrait de Attention, danger, travail. Et pour finir en beauté, en 1988, les soucoupes violentes chantaient Restez au lit.
Réveillé cette nuit, je me suis levé, je me suis dit. Stay on it. car le pain, le monde est dégueulasse. Je veux rester à ma place, je veux rester dans mon lit avec ma petite amie. Je veux rester dans mon
Et voilà, ainsi se termine cette émission. Le sujet de la prochaine n'est pas encore arrêté parce qu'on n'a pas bossé, faut pas déconner. Et puis, à l'approche de 15h, ce vendredi gris et pluvieux, je ne peux que vous inviter à vous recoucher ou écouter la radio chez vous, partir au cinéma, se reposer quoi. D'ici la prochaine émission, portez-vous bien comme d'habitude à l'écoute de Canal Sud ou pas.